Ce jour-là, j'ai eu un immense choc, en fait. J'en ai eu un si grand que je n'en ai jamais parlé.
En fait, adolescente, je me sentais déplacée, comme un geste ou comme une parole peuvent être déplacées.
En famille, en amour, au travail, en société, trouve-t-on jamais tout à fait sa place ? Ce sentiment d'être en adéquation avec soi-même, de se rapprocher de la personne que l'on a l'ambition d'être. Une carrière pertinente qui nous rend heureux, un entourage qui nous aime pour ce que nous sommes, une vie qui nous ressemble ou tout du moins nous trahisse le moins possible. Parfois, ce sentiment de cohérence arrive vite, parfois plus tard, quelquefois jamais. Le plus souvent, il se déplace par vagues. Je suis Marion Ruggieri et dans le podcast Les Vagues, un tout nouveau podcast de Elle, j'interrogerai des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi le moment où elles se sont senties déplacées. Je me rendrai chez elles ou dans un lieu cher à leurs yeux pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « Là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Une nuit en librairie. Le podcast littéraire du magazine Elle. Une nuit en librairie par Olivia de Lamberterie. Une nuit en librairie avec Monica Sabolo.
Nous sommes dans le 16e arrondissement à Paris, 118 rue de la Pompe, chez Lamartine. Une librairie-papeterie indépendante fondée en 1926. On est à deux pas du lycée Janson de Sailly, qui accueillit, entre autres élèves, Sacha Guitry, Henri de Monterland ou Emmanuel Carrère. Lamartine est réputée pour la qualité de ses conseils. On vient pour acheter un best-seller ou un stylo, on repart avec une pile de romans, recommandés notamment par le directeur de la librairie, le formidable Stanislas Rigaud. Les clients sont partis, la nuit est tombée, un rêve éveillé commence. Nous voilà enfermés dans cet endroit où les auteurs sont rois, avec une femme merveilleuse. Romancière de l'adolescence, écrivaine aux mots poétiques et à l'esprit facétieux, auteure de Grand Montana, Summer, Eden, c'est aussi une spécialiste des tortues marines et une amoureuse des chouettes avec laquelle nous allons passer la nuit. Et cette autrice cache une grande lectrice. Chouette, justement, nous voici enfermés pour une nuit en librairie avec Monica Sabolo. Bienvenue Monica.
Bonsoir.
Alors, le principe est simple comme bonsoir. Nous allons nous promener dans tous les rayons de cette librairie qui n'en manque pas et vous allez vous raconter au travers des livres que vous aimez.
Une nuit en librairie.
Merci de nous accueillir, Stanislas Rigaud.
Bonsoir.
Alors, chez Lamartine, il y en a pour tous les goûts. Mais combien de titres avez-vous ?
Alors, en ce moment, on est sur un peu plus de 35 000 titres.
Waouh !
Avec un volume assez conséquent, parce qu'il y a beaucoup de best-sellers. On est bientôt en vacances, et donc forcément, c'est le moment où la littérature s'est développée. En plus, avec le déconfinement, on a eu énormément de demandes. Donc, on a beaucoup de grosses piles.
Tant mieux.
Tant mieux.
Et beaucoup de grosses ventes,
aussi.
Je crois savoir aussi. Stanislas, comment est-ce que vous avez découvert Monica Sabolo ? Quel est le premier livre de cette romancière qu'on adore que vous avez lu en premier ?
Alors moi, je l'ai découverte avec Summer. On avait beaucoup vendu Crans Montana. Et c'est à ce moment-là où j'avais repéré Monica et on s'est rencontrés à une présentation de rentrée littéraire où j'ai trouvé l'interview absolument remarquable. Ni une ni deux, j'ai récupéré les épreuves et je suis tombé totalement amoureux de Summer. Après, ça s'est poursuivi justement avec le dernier. Et ce que j'aime beaucoup chez Monica, c'est son univers. Un univers qui, dans des circonstances très très diverses, entre Summer et Eden, il y a quand même deux univers radicalement opposés. Et pourtant, en quelques phrases, on est reparti avec elle et je trouve ça assez magique.
Alors Stanislas, vous êtes un excellent libraire, car vous êtes un immense lecteur dont les avis sont extrêmement attendus par les auteurs de la rentrée littéraire. Or, en août, que font les libraires ? Ils lisent la rentrée littéraire.
Tout à fait.
Est-ce qu'on peut déjà vous demander vos coups de cœur de la rentrée ?
Tout s'est un petit peu décalé avec l'histoire du confinement et du déconfinement, mais on a beaucoup lu là. Alors, en ce moment, moi, j'ai énormément aimé le retour de Camille Laurence avec Fille chez Gallimard, qui risque, et le mot est faible, d'être un des grands, grands bests de cette rentrée. Un livre fulgurant, drôle, poignant, qui se lit en, allez, une demi-heure, trois quarts d'heure, tellement vous êtes pris par ce livre qui vous attrape.
Moi, j'ai... Vous lisez très vite. Moi, je l'ai lu, mais plutôt en deux heures, trois
heures. C'est waouh. C'est le grand roman populaire et en même temps qui dit tellement de choses, c'est remarquable.
Un autre coup de cœur ?
Oui, le retour de Camille Pascal pour La Chambre des Dupes chez Plon, qui est absolument remarquable. Alors, il avait eu le prix de l'Académie française pour son précédent livre, L'été des quatre rois. Et là, il revient sur une histoire d'intrigue à l'époque de Louis XV, juste avant la bascule de Louis XV. C'est brillant, c'est extrêmement méchant, drôle, acéré. Moi, ça m'a fait penser, même si l'époque n'est pas la même, à Laclos. C'est, à mon avis, un des très grands livres aussi de cette rentrée.
Merci de nous donner envie. Merci, Stanislas. Monica, quelle cliente de librairie êtes-vous ? Est-ce que vous venez avec la liste de vos envies ? Est-ce que vous vous laissez convaincre par des libraires comme Stanislas ?
J'aime bien l'illusion de découvrir quelque chose, c'est-à-dire un livre, un auteur dont le libraire me parlerait en chuchotant comme quelque chose d'un peu clandestin, qui ne s'adresse qu'à quelques initiés. On retrouverait un auteur culte ou disparu ou qui a publié extrêmement peu de textes, ce genre de choses. C'est toujours été ce mystère-là qui m'a poussée dans les librairies, mais dès l'adolescence.
Si on voulait vous connaître pour nos auditeurs, je vais vous demander de faire un portrait chinois, mais pas avec des animaux. On en parlera plus tard, avec des livres. Quels sont ou quel est le livre qui permettrait à nos auditeurs de mieux vous connaître ?
Je choisirais trois livres qui sont très différents, justement, qui ça donnerait un portrait chinois un peu étrange. Je commencerai peut-être par Virgin Suicide, qui est vraiment le livre de Jeffrey Eugenides, qui a été une sorte d'éblouissement pour le style avant tout, et puis cette façon d'avoir des idoles lointaines et d'être fétichiste avec des détails, un gloss, une brosse, une façon de s'habiller, un regard, ça c'est quelque chose qui me touche énormément et je pense qu'il est assez proche de mon univers.
Bien sûr, vous êtes la romancière du short en jean.
J'aime énormément cette définition. Mais ensuite, je prendrai un auteur comme James Ellroy.
Waouh !
Ouais, pour peut-être le plus sombre et le plus troublant de ses livres pour moi, qui est Ma part d'ombre, qui est un livre très personnel et qui m'a énormément secouée par sa sincérité. Donc, où il évoque l'assassinat de sa mère en 1958, un meurtre qui n'a jamais été élucidé et qui explique sa jeunesse d'adolescent perturbé, et également toute, finalement, sa carrière d'écrivain hanté. Je ne saurais peut-être pas exactement pour quelle raison cela résonne si fort, mais peut-être cet endroit du trouble.
Ça vous va bien, mais vous avez aussi une grande part de lumière. Vous êtes très drôle, vous êtes lumineuse, et dans vos livres, il y a justement ce clair-obscur toujours. Est-ce qu'il y a une part de lumière ?
Alors voilà, le troisième auteur, je dirais, parce que c'est à peu près tous ses ouvrages, c'est David Sedaris. Qui est un écrivain américain que je trouve hilarant et qui est... Ses livres sont des chroniques familiales, personnelles, où l'auto-dépréciation est permanente. Et je trouve que ses obsessions, sa vision de l'existence, cette espèce de personnalité, de loser poétique, je ne sais pas. Je me retrouve également aussi bien dans James Ellroy que dans David Sedaris.
Alors, pour vous connaître, évidemment, le plus simple, c'est de lire vos livres. Quelques titres, Tout cela n'a rien à voir avec moi, Crans Montana, Est-ce qu'on dit Crans Montana ou est-ce qu'on dit Cran Montana?
On dit pas le S.
On dit pas le S, voilà.
Cran Montana.
Cran Montana, Summer, Eden, ce sont tous des romans magnifiques dans lesquels, je trouve, vous habillez la violence de poésie. La part d'ombre est habillée d'une part scintillante. Est-ce que vous accepteriez de nous lire un petit extrait de votre dernier roman, Eden?
Avec plaisir. J'ai choisi un passage qui évoque la forêt, qui pour moi était presque le personnage principal du livre. Nous nous glissâmes dans la nuit et ce fut comme entrer dans un nuage. L'air était moite et doux. Le ciel d'un bleu sombre nous dissimulait aux yeux du monde. Les filles se mirent à courir, gracieuses, rapides. Pas un mot ne fut prononcé. Je jetai un œil à la route déserte et m'élançai derrière elle, ajustant mes foulées aux leurs. Nous entrâmes dans la forêt en file indienne. Les hautes branches remuaient sous la brise. Ellie se retournait à intervalles réguliers pour vérifier que nous étions toutes là. Ces bois attrapaient la lumière de la lune. Au bout d'un moment, je fus capable de distinguer leur souffle, la respiration hachée de Baby, l'inspiration sifflante de Diane, le tout sautement d'Ellie. Par instant, l'une ou l'autre me frôlait, la douceur d'un plumage, l'éclat d'une fourrure. Les arbres s'écartaient pour nous ouvrir la voie. Le vent s'engouffrait dans les feuillages, faisant monter l'excitation, accélérer nos cœurs et nos foulées. Nos yeux voyaient dans l'obscurité, mais nous étions invisibles. Nous étions une harde sauvage, nous étions la nuit et le vent, nous étions la forêt. Nous étions la permanence de toute chose en mouvement. Nous étions sans fin ni commencement, le souffle et la pulsation de la terre. À travers nos yeux s'ouvraient ceux de la forêt. Nous battions des paupières et, dans l'ombre, les animaux battaient des paupières et voyaient ce que nous voyions.
Une nuit en librairie.
Monica Sabolo, ce podcast est encore tout jeune, mais il y a déjà des traditions. Pour commencer, rendons-nous au rayon de la jeunesse, à la recherche des ouvrages qui vous ont donné le goût de lire et peut-être même d'écrire.
21h15, la nuit en librairie, au rayon jeunesse.
Alors nous voilà face au rayon jeunesse. Qu'est-ce que vous avez aimé dans votre vraiment petite enfance?
Alors les premières histoires que j'ai vraiment lues et qui m'ont fascinée, je dirais vraiment, c'est les histoires de Bob et Bobette.
Alors là, nous devons préciser à tous ceux qui nous écoutent que Monica est venue avec ses propres Bob et Bobette parce que Stanislas a eu beau chercher, Bob et Bobette n'est plus édité.
Alors ça, je m'en remets pas du tout. Bob et Bobette, c'est une bande dessinée belge. Tout est burlesque et inspiré soit de contes, mais aussi de la Bible ou de grands classiques comme Don Quichotte ou Le Livre de la Jungle. Il y a, je crois, 350 albums.
Les titres sont géniaux. Quand les elfes danseront,
oui,
l'ambic au bois dormant, c'est assez poétique.
Mais oui, il y a le cygne noir, les champignons chanteurs.
Oh, enfin, voilà. Champignons chanteurs, avis aux éditeurs.
Voilà.
Publiez donc les champignons chanteurs. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de lire, d'ailleurs?
C'est vraiment toute seule en allant piquer des livres dans la bibliothèque de mon père, essentiellement des BD, qui, si possible, n'étaient pas de mon âge. Et c'est vraiment par l'image, finalement, que le livre est entré dans ma vie.
Vous avez attrapé également dans ce rayon les trois sorcières.
Ah oui, oui. Alors, je dois dire que je lisais beaucoup à mes enfants petits tout ce qui était des histoires qui faisaient un peu peur et qui réconciliaient avec justement l'idée de la peur. Et donc, beaucoup d'histoires de sorcières. Et puis, pareil, j'ai commencé à entrer dans la littérature en redécouvrant des livres dans la maison de mes grands-parents, les parents de mon père. Et il y avait tous ces livres d'enfance. Et j'avais la sensation, à nouveau, de faire quelque chose de clandestin en lisant Salammbô, par exemple, de Flaubert, ou les Contes de Montmoulin, aussi bien que La Comtesse de Ségur, Les Mémoires d'un âne, ce genre de choses. Mais parce que personne ne m'avait recommandé de les lire. C'était mon secret, c'était ma propre aventure. Et comme ça, je suis entrée dans la littérature. Je me souviens aussi de La Tulipe Noire, par exemple, ce genre de choses. Voilà.
Une nuit en librairie.
Monica Sabolo, c'est par la BD que vous plongez enfant dans la lecture. Alors après Bob et Bobette, vous aviez pour héroïne Yoko Tsuno, ingénieur en électronique, pilote d'hélicoptère et ceinture noire d'aïkido, et Cléopâtre, la Cléopâtre d'Astérix, femme puissante s'il en est. Pourquoi les avoir aimées, elles, plutôt par exemple que les sages et plutôt tartes, Caroline ou Martine? Est-ce que vous vous identifiez à elles?
Je crois surtout qu'à l'époque, je cherchais des héroïnes féminines. Mais je lisais le journal de Spirou et la plupart des héros étaient des garçons. J'aimais beaucoup Spirou et Fantasio, mais il y avait Cécotine qui était la petite... journaliste avec une petite queue de cheval qui me plaisait bien, mais elle apparaissait très peu. Et je lisais Joanne et Pierre-Louis aussi, ou les Schtroumpfs, pas de femmes, ou juste la Schtroumpfette. Et effectivement, dans Cléopâtre, elle avait ce rôle tellement important, elle était assez fascinante, et en plus, je trouve que cet album est extrêmement drôle. Donc, elle m'a beaucoup marquée. Mais Yoko Tsuno, c'était la première fois, je crois, dans les années 70, qu'une femme était l'héroïne d'une bande dessinée. Il y avait eu en même temps Natacha, Hôtesse de l'air. Il se passait quelque chose à ce moment-là où une fille pouvait être finalement l'héroïne. Je pense aussi que c'est un âge où on a vraiment ce besoin d'identification, de voir une fille qui agit. D'ailleurs, elle n'a aucune histoire d'amour, jamais. J'aimais aussi cette idée. On n'a pas besoin forcément que l'héroïne féminine soit sentimentale ou autre.
Alors parmi les choses que vous aimez, il y a aussi ça. Vous venez de publier votre premier livre pour les enfants, La Chouette Blanche, dans la très bonne collection Une histoire et au lit, coéditée par France Inter et Michel Lafon, dont les héros sont une bande d'enfants à la recherche d'une chouette blanche. Et si je ne me trompe pas, parmi les héros d'Éden, il y avait aussi une chouette qui s'appelait d'ailleurs...
Beyoncé.
Pourquoi aimez-vous les chouettes?
Alors, ce fut une découverte pendant l'écriture d'Éden. J'étais pas particulièrement sensible aux chouettes auparavant, mais j'adorais faire des recherches sur Internet, regarder des vidéos YouTube, etc., parce que ça me permet d'avoir l'illusion de faire des recherches et de travailler sans écrire. Et il y avait cette petite chouette qui était apparue dans une flaque, dans une histoire. J'imaginais que l'une de mes héroïnes trouvait cet oiseau. Et je me suis dit, pour écrire sur les chouettes, il faut quand même que je m'intéresse un peu à l'animal. Et ce fut comme un gouffre. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à regarder des heures de vidéos de fauconneries. Je vous avoue que je suis même arrivée au point où j'ai contacté des organisateurs de stages de fauconneries. Parce que je pensais que c'était absolument nécessaire que j'apprenne à la voir sur moi, à la dresser, etc. Malheureusement, ça n'a pas encore eu lieu. C'est peut-être pour cette raison que j'ai ensuite écrit La Chouette Blanche, dans une sorte de quête. Mais la chouette, elle est assez fascinante parce que c'est l'animal de la nuit. C'est l'animal qui voit ce que les autres ne voient pas. Elle a une sorte de sagesse et de compréhension du monde. C'est aussi l'animal des contes de fées, de la sorcière. Et je voulais dans Éden que ma bande de filles ressemblent en quelque sorte à une bande de sorcières, dans le sens qu'elles vont faire des choses dans la forêt, qu'elles sont entre elles, qu'elles jouent avec la magie. Et je pense qu'il y avait cette image de la chouette qui est double. En même temps, c'est un animal qui est extrêmement amusant, tendre, et en même temps, j'ai découvert, en lisant, qu'il broie le cerveau de ses proies à l'intérieur de ses serres. En fait, c'est très cruel, ça peut être assez cruel dans sa façon de chasser.
Moi, j'ai adoré la chouette blanche. J'ai trouvé que c'était un exquis mélange du Club des Cinq. On part à l'aventure. Et du petit Nicolas. Vous y avez pensé ?
Non, pas du tout. Ouais, j'adore le petit Nicolas. Je lisais énormément le petit Nicolas quand j'étais petite. J'avais envie de mettre une touche d'humour. Et en même temps, ce qui me plaît dans l'aventure, c'est l'aventure urbaine. C'est-à-dire qu'il cherche une chouette blanche, mais à l'intérieur même de Paris, dans un square, là où elle ne devrait pas être. Et ils ont l'impression, ces enfants, qu'il y a des animaux sauvages qui sont partout.
Une nuit en librairie.
22h15. La nuit en librairie. Au rayon poche. Les livres de l'adolescence.
Nous allons nous diriger vers le rayon des poches, découvrir les lectures clandestines de votre adolescence. Et là, je m'attends à tout. Est-ce que vous vous souvenez du premier livre que vous avez acheté ?
Je me demande si ce n'était pas « Cent ans de solitude ». Je ne sais pas pour quelle raison ce fut celui-là. Mais ce fut un éblouissement.
Parce que le réalisme magique...
Alors, il y avait la magie, mais l'aspect de la saga familiale aussi, extraordinaire. Et je pense l'aspect tropical. Je sais pas, je me sentais chez moi et en même temps complètement ailleurs avec ces personnages. Et probablement, effectivement, l'aspect baroque, l'aspect de la langue que je trouvais... assez fascinante. Je ne pensais pas qu'on pouvait écrire comme ça.
Ce qui est fascinant, c'est que quand vous parlez de Garcia Marquez, on pourrait parler exactement avec les mêmes mots, par exemple de Summer, où on était dans une ambiance moite, où on avait l'impression de respirer les fleurs. Donc peut-être il y a des résurgences comme ça.
Ah oui, je suis sûre qu'il a joué un rôle dans une sorte de déclic, mais comme Stephen King aussi, d'une autre façon.
Mais alors Stephen King, ça vous faisait pas peur quand vous aviez 14, 15 ans ?
Étonnamment, c'est pas le souvenir que j'en ai. Ce qui me plaisait, je crois, c'était le fait que au centre de ses romans, les adolescents et les enfants sont souvent ceux qui ont des pouvoirs. Cette étrangeté que ressent l'adolescent dans les livres de Stephen King me semblait très proche de mon sentiment de bizarrerie au monde.
Est-ce que à cette époque vous vous voyez écrivain ou pas du tout ?
Ah oui, complètement.
Ah, complètement.
Ouais, je crois que mes parents étaient extrêmement fatigués des noms de piles de poèmes que je laissais devant leur chambre. J'avais également, je me souviens, un carnet dans lequel j'écrivais mes propres fables, mais même ça, très petite, que j'illustrais moi-même et que je notais. Donc je pensais que j'avais vraiment le chemin était déjà tracé.
Une nuit en librairie.
Monica Savolo, vous voilà adolescente et je crois que c'est à cette époque que vous avez un choc. Vous découvrez Beloved de Toni Morrison, peut-être même à sa sortie. Il est sorti en 1987.
Oui, je l'ai découvert à sa sortie, c'est vrai.
Comment ? Pourquoi ?
Je crois que c'est un libraire qui me l'a recommandé.
Merci les libraires.
Oui, c'était vraiment l'époque où j'adorais ces discussions avec le libraire qui, à nouveau, me chuchotait comme dans un trafic secret des titres merveilleux. Et je la découvrais, je pensais que c'était un homme d'ailleurs.
Ah bien sûr, voilà. Toni Morrison.
Oui. Et j'ai été... stupéfiée par cette lecture parce que c'est l'histoire donc d'une mère qui est revisité par sa fille disparue, qui revient à la vie d'une certaine façon. Donc c'est un mélange de réel, de la violence du réel et de beauté lyrique et fantastique, mais comme un chant, comme quelque chose qui s'élève d'une puissance et d'évocation incroyable. Et le fait de pouvoir retranscrire le réel par le fantastique, le surnaturel, avec autant d'acuité et également d'empathie, m'a ouvert, je pense, une nouvelle porte vers la possibilité de l'écriture.
Alors à l'époque, vous êtes adolescente, vous écrivez des poèmes, des fables, mais pas seulement. Vous avez pour héroïne Cléopâtre et Yoko Tsuno, mais vous avez un autre héros, on l'écoute.
L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, c'est ça, pour moi, la seule chose qui compte. Tout le reste est secondaire, tirer du pétrole, des trucs. Pourquoi faire? Pour augmenter de 5% la production. Rigolade, hein. Il faut maintenant parler de choses sérieuses, c'est-à-dire la vie de nos enfants, de nos petits-enfants, le bonheur de vivre, la qualité de la vie, la joie, le rire, les chansons, les fleurs, les oiseaux. Voilà ce qui compte. Tout le reste, la production du sol, on s'en fout.
Je trouvais que ça vous allait bien. La vie et l'océan, c'était donc le commandant Cousteau, à qui, je crois, vous écrivez beaucoup, beaucoup de lettres.
Auxquelles il n'a jamais répondu. Ouais, je l'ai vraiment supplié de m'emmener sur la Calypso.
Ouais.
Et j'avais toute la collection, il y avait toute une collection qui retraçait ses aventures, son film sur les dauphins, son film sur les requins. D'ailleurs, il y avait à la fin de ses albums, je crois, des sortes de poèmes qu'il écrivait. Et elles m'ont beaucoup inspirée pour ma production poétique de l'époque. Et j'étais désespérée, je ne comprenais pas qu'il ne réponde même pas à un mot.
Mais en même temps, ça ne vous désespère pas au point de renoncer à votre vocation, puisque je crois que votre premier métier, vous êtes partie recenser les tortues marines.
Alors, premier métier, c'est un grand mot, mais en effet, après mes études, qui n'avaient rien à voir, qui étaient des études de relations internationales à Genève...
Qui n'ont rien à voir non plus avec l'écriture, on ne sait même pas comment vous êtes devenu écrivain.
C'est vrai.
Vous allez nous le dire.
Et je voulais absolument travailler dans la nature pour la protection de l'environnement. Et j'ai trouvé dans le journal une annonce du WWF cherchant des volontaires pour partir 3 mois en Guyane recenser des tortues marines. Et j'ai écrit. Cette fois-ci, on m'a répondu. J'ai eu un rendez-vous. Je me souviens très bien, j'ai pris le train pour aller à Paris. Et le directeur du projet m'a vu, m'a dit « Mais non, je ne vous emmène pas en Guyane. C'est absurde. Non seulement vous n'êtes pas scientifique, mais en même temps, vous allez dormir dans un... » Je m'étais vraiment habillée comme pour un entretien d'embauche. Alors...
Avec un tailleur ?
Bah, presque. Non, mais j'avais... Oui, c'est vrai, j'avais une petite veste. J'avais... Et je crois qu'il m'a pratiquement ri au nez. Et finalement, j'ai été tellement persévérante. Résultat, il m'a emmenée. Et ensuite, j'ai enchaîné d'autres projets. Et j'ai travaillé également pendant 3 mois en Thaïlande dans un centre de réhabilitation de gibbons qui remettait des gibbons dans la forêt.
Comment passez-vous du gibbon à ce jour où, pour la première fois, vous prenez un crayon et vous vous dites « je vais écrire un livre ».
Alors, entre-temps... Quand j'étais en Guyane, des gens sont venus rendre visite au directeur du projet qui lançait un magazine qui s'appelait Mer et Océan à Paris. Et j'ai postulé.
Pour rencontrer le commandant Cousteau.
Voilà, bah, j'avais enfin. Pas complètement perdu.
Le film.
Voilà. Et du coup, je me suis retrouvée pas du tout sur la Calypso, mais Porte de Vanves.
C'est bien aussi.
Voilà. Où je faisais des shoppings. De, vous savez, de bateaux dans des bouteilles, de choses de ce genre-là, pendant 3 ans. Mais également quelques reportages. Donc, disons que je me suis familiarisée avec l'écriture à ce moment-là. Et puis, j'avais toujours en tête, mais depuis petite, j'avais 2 objectifs, c'était la Calypso et la littérature. Donc, j'ai écrit mon premier roman... qui s'appelle Le roman de Lily, dont l'héroïne est une jeune femme qui travaille dans un journal qui s'appelle La pêche et les poissons,
et qui veut devenir écrivain et qui est mythomane. Donc voilà.
De mythomane, vous êtes devenue la plus grande romancière de l'adolescence de France. Ouf. Moi, je dirais, suivant l'expression de Philippe Génada, également de l'univers et de ses environs. Vous êtes vraiment, je trouve, la romancière de cet âge charnière. Vous avez choisi dans les rayons quelques ouvrages qui nous parlent de cet âge d'or ou pas, et notamment celui-là, on écoute.
Yourselves with rather more grace and considerably less noise. Mrs. Appleyard will see to it that none of you go to Hanging Rock today.
Alors c'est un film, l'adaptation d'un roman que vous adorez, que j'ai découvert d'ailleurs grâce à vous, qui s'appelle
Picnic à Hanging Rock.
Alors ça c'est un livre un peu souterrain, un livre un peu clandestin que les aficionados se refilent. Pourquoi est-ce que vous l'aimez tant?
Je crois justement qu'il associe deux univers qui me sont très chers, donc celui des jeunes filles dans un pensionnat en 1900 en Australie, très corseté par le puritanisme, tenu par une directrice dure, et la nature sauvage, c'est-à-dire le bush australien, la terre ocre, les oiseaux de proie qui tournent. Donc c'est un livre qui raconte le pique-nique annuel de ce pensionnat qui est un peu l'événement de l'année. Donc toutes ces jeunes filles partent pique-niquer au milieu des rochers, pratiquement dans le désert. Et cette année-là, trois jeunes filles et une institutrice disparaissent et ne reviennent jamais. Ce que j'adore dans ce livre, c'est l'étrangeté qui n'est jamais résolue. On y voit plein d'explications que le lecteur choisit lui-même. Mais la disparition de ces trois jeunes filles, aucune réponse. Ce que je trouve également intéressant dans l'histoire de ce livre, c'est qu'ensuite, le 18e chapitre du livre qui donne une explication a été publié après la mort de l'autrice.
Incroyable.
Ouais, une explication que je trouve d'ailleurs assez mystérieuse. Et j'ai hésité longtemps avant de la lire, parce que ce qui me plaisait, c'est qu'il n'y ait pas de réponse.
Dans Summer, une jeune fille disparaissait. Dans Eden, une jeune fille disparaît et revient dans un très piteux état. On a l'impression que chez vous, la jeunesse est l'âge de tous les possibles, de toutes les possibilités, et en même temps qu'elle est toujours rattrapée par la férocité du monde, ou alors, d'ailleurs, la férocité d'une histoire familiale compliquée. C'est ça qui vous plaît dans cet âge-là, ce double jeu?
Il y a quelque chose d'universel dans l'adolescence, selon moi, qui transcende les origines, quelles qu'elles soient, sociales, familiales, ethniques. On est dans le moment de l'émotion pure, effectivement, du possible et de l'impossible à la fois. Et de la fragilité, du risque de la violence, parce que c'est un âge de domination. Et c'est ce qui m'intéresse, je crois, même si c'est forcément un peu mystérieux aussi, cette façon que j'ai d'y revenir sans cesse, mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, cette exaltation, quelque chose d'extrêmement vivant, et en même temps de morbide, de léger, de drôle, une sorte d'humour, de souplesse, comme un courant. Ce n'est pas ensuite quelque chose se fige, mais là, c'est mobile, c'est vivant, c'est curieux. Et à la fois, c'est cadenassé, c'est le malaise, c'est l'étrangeté. J'adore l'ambivalence, j'aime toujours l'ombre et la lumière, le tragique et la fantaisie, la poésie et le rugueux. C'est un âge qui va magnifiquement avec cela, et j'adore les dialogues également, la langue de cet âge-là, peut-être parce que ça a trait à un autre domaine qui me plaît toujours et qui m'inspire, c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre de la pop culture.
Alors là, Monica, on part en exploration parmi les 35 000 titres de cette librairie. Vous avez pris votre sac à dos et nous allons chercher dans tous les rayons les romancières qui vous touchent particulièrement, celles de l'intime, de la féminité, de la mémoire.
Une nuit en librairie. La nuit en librairie. Les romancières.
Tout de suite, vous êtes emparée de tout. Maggie Nelson, qui je crois est votre dernier coup de foudre. Pourquoi Maggie Nelson ?
Alors déjà, Maggie Nelson est publiée aux éditions du Sous-Sol, que je trouve remarquable.
Tout le sous-sol.
Pratiquement.
Et puis avec de la, ce qu'on appelle de la narrative non-fiction.
La narrative non-fiction m'intéresse beaucoup aujourd'hui. L'écriture de soi qui est mélangée avec une sorte de document sur l'époque ou sur l'Amérique, cela m'intéresse particulièrement. J'essaie de voir comment on peut faire ça sans être indécent, sans être trop tourné sur soi, comment elle touche à l'universalité.
Vous avez choisi aussi L'Empreinte, Grand Prix d'électrice de Elle l'année dernière.
Il m'a bouleversée, ce livre. Ouais. C'est à nouveau une histoire personnelle, un mélange d'intimité et de procès et d'assassinat. Ce qui est formidable, c'est l'immense compassion, l'immense humanité pour tous les personnages. Tout est déchirant, rien n'est noir.
Et la manière dont son histoire personnelle remonte.
Ah, le mélange.
Et j'ai l'impression que ce processus, d'ailleurs, ressemble aussi parfois à votre écriture. Alors après, vous avez choisi un livre. Je ne sais pas s'il y a des assassinats ou pas, parce que je ne l'ai pas lu. Eh bien, ça tombe bien. Même les co-girls ont du vague à l'âme.
Alors, c'est pas du tout le même genre. Il n'y a aucun assassinat. C'est plutôt l'impression de découvrir un livre, vous savez, que personne ne connaît ou qui a été culte. Donc, Tom Robbins, l'auteur de Même les co-girls ont du vague à l'âme, l'a écrit en 1916. Et c'est l'histoire d'une fille qui a des pouces extrêmement longs, démesurés, et donc du coup qui fait de l'autostop, qui s'en sert comme d'une arme et qui va traverser toutes les États-Unis. Et c'est un roman qui est assez halluciné, très contre-culture de l'époque américaine, mais avec où elle va rejoindre un ranch peuplé de co-girls qui vivent entre elles, qui sont extrêmement drôles et totalement folles.
Une nuit en librairie.
Monica Sabolo, vous êtes la romancière de l'intime, de la féminité, de la mémoire aussi, du souvenir. Et nous sommes partis en exploration à la recherche de romancières qui vous touchent particulièrement, qui vous touchent parce qu'elles parlent du métier de vivre, mais aussi du métier d'écrire. Écoutez.
C'est un drôle de truc, l'écriture. Pourquoi on se double de ça? On se double d'une autre vision du réel. Pourquoi tout le temps ce cheminement de l'écrit à côté de la vie et duquel on ne peut absolument pas s'extraire? Et puis, je ne sais pas ce que c'est, écrire, je ne sais pas. Je pose des mots beaucoup de fois. Des mots d'abord, vous voyez? C'est comme si l'étendue de la phrase était ponctuée par la place des mots. Et que par la suite, la phrase s'attache aux mots, les prend et s'accorde à eux comme elle le peut. Mais que moi, je m'en occupe infiniment moins que des mots.
Marguerite Duras, j'ai eu l'impression que ces mots, justement, collaient tout à fait aux vôtres. Est-ce que l'écriture, c'est d'abord et avant tout des mots?
L'écouter ou la lire, pour moi, c'est comme allumer une flamme. C'est-à-dire, elle rallume instantanément l'envie de faire quelque chose, de se plonger, d'être plus radical, de se laisser emporter par cette espèce de transe. En fait, elle semble en transe quand elle écrit ou quand elle parle, et pourtant c'est infiniment maîtrisé.
Vous avez choisi le très beau livre de Laura Adler sur Marguerite Duras. Est-ce que quand vous écrivez, vous êtes en transe?
Ouais, parfois un peu. En fait, j'ai la sensation que j'oscille entre deux états. Un état presque de rêve éveillé,
où là, je peux laisser sortir, écouter la musicalité, le mot, une image étrange. Je pense que quand je lâche mon conscient, les choses sont plus intéressantes parce qu'elles sont plus inattendues, elles sont plus bizarres. Et je vais à un endroit où je touche, enfin j'essaye de toucher à ce qui pour moi est indicible avec des mots qui ne collent pas complètement à l'émotion. Et ensuite, c'est comme si je me réveillais et que je reprends le texte pour le structurer et pour raccrocher, essayer d'aller quelque part, etc. Il y a des moments qui sont très organisés, très maîtrisés, et d'autres beaucoup plus comme un flot par lequel je me laisse porter. Et c'est probablement mes moments préférés, c'est vraiment des moments de bonheur dans l'écriture, de lâcher. Alors, quelquefois, c'est catastrophique. Hein. C'est le risque.
Alors, dans ce cas-là, votre éditrice, Carina Hossine, éditrice chez Jean-Claude Lattès, et puis éditrice aujourd'hui chez Gallimard, me disait que pour écrire, il faut que vous nagiez. À quoi vous pensez quand vous nagez tous les jours ?
C'était particulièrement vrai pour Summer, qui est un roman vraiment aquatique. Le lac est un personnage. Alors, j'allais nager tous les jours. J'ai vraiment l'impression d'avoir écrit ce texte complètement sous l'eau. J'étais sous l'eau à la piscine, juste en bas de chez moi, et je continuais d'être sous l'eau quand j'écrivais. Mais à la piscine, c'était drôle parce que je reconnectais avec des émotions sauvages de mer ou de choses comme ça. Le bruit de l'eau, les sons des voix sous l'eau, les reflets, les ombres me remettaient dans une eau qui pouvait être celle du lac et qui me mettait dans cet état-là. Et peut-être que ça me permet aussi de lâcher la partie la plus maîtrisée de mon esprit. Donc quelque chose se détend quand je nage.
On écoute maintenant une autre très grande écrivaine nous parler d'écriture.
Je ne crois pas qu'on lise pour lire. On lit pour... on attend quelque chose d'un livre. Un livre, c'est d'abord une forme à trouver.
C'est encore possible d'inventer des nouvelles formes aujourd'hui ?
Ah ben bien sûr. L'histoire de la littérature n'est faite que de formes différentes. Ça part de soi-même.
Vous avez reconnu Annie Ernaux qui dit cette chose qui a l'air folle. L'écriture naît de l'écriture.
Ah, je suis absolument d'accord avec cette phrase, je la trouve magnifique. Aussi bien Marguerite Duras est dans la fiction et dans la création romanesque, elle l'assume absolument, et Annie Ernaux dit complètement le contraire, c'est qu'elle essaye de refuser la fiction. En revanche, par rapport à ce qu'elle dit sur l'écriture qui crée l'écriture, je réfléchis à un projet, il est maigre. Il y a deux idées. Je sais maintenant par expérience qu'il faut que je me mette à écrire. Parce que le vrai projet va surgir dans le fait d'écrire.
Et pour clore cette séquence sur l'adolescence, deux génies. Votre écriture possède une grâce très cinématographique. On parle souvent à votre propos de Sofia Coppola. Mais moi, c'est à une autre réalisatrice que vos romans me font penser. On écoute. La leçon de piano, une musique de Michael Nyman, des images de Jane Campion, ça vous plaît ?
Ah bah, j'adore en particulier la leçon de piano, qui est vraiment... Les images se sont presque inscrites physiquement en moi. À nouveau, ce mélange de société puritaine, de féminité, de sauvage, de désir, de liberté, de force et de violence. Enfin, je trouve que on touche à une sorte de perfection.
Alors vraiment, comme le sparadrap du capitaine Haddock, il y a une référence qui colle à votre œuvre. Et quel bonheur et quelle justesse, c'est Joyce Carol Oates. dont on n'a pas encore parlé. Est-ce que si vous deviez partir dans les chutes, par exemple, vous emporteriez un livre de Joyce Carol Oates?
Oui, bien sûr. Effectivement, je me fais souvent, c'est vrai, hein, je me fais souvent mon petit top 5 de Joyce Carol Oates. Alors ça bouge, hein, je me dis non, peut-être celui-là, ok. Et les chutes est dans, certainement dans mon top 3.
Top 3, les chutes.
Il y a également le Nous étions les Mulvaney, peut-être. Blonde, l'histoire de Marilyn Monroe à l'intérieur de son esprit. En fait, ce qui est extraordinaire avec cette autrice, c'est sa capacité à voir l'Amérique à travers tous les âges, toutes les époques, toutes les sociétés. La faculté qu'elle a de se promener aussi bien dans un milieu extrêmement urbain que dans le sauvage ou même dans des romans gothiques, par exemple, comme Bellefleur, ou c'est une trilogie gothique que j'ai adorée, où je me souviens particulièrement d'un étang. Un étang qui est vivant, qui chuchote, qui parle, qui protège un enfant et l'attaque aussi. Elle se promène en fait dans tous les genres. Et elle est, je ne sais pas quand elle écrit, jour et nuit, je pense qu'elle ne dort jamais. Mais voilà.
Je crois que c'est ça.
Merci Monica.
Une nuit en librairie.
3h24,
la nuit en librairie,
littérature contemporaine.
Alors, nous allons continuer à nous promener dans les rayons incroyables de cette librairie. Il y a tous les rayons ici, hein. Et nous allons aller vers le rayon de la littérature contemporaine, des auteurs d'aujourd'hui qui composeraient avec vous votre petite famille, votre petite tribu émotionnelle. Alors, qui a-t-il dans votre tribu ?
Patrick Modiano, je dirais à peu près tout.
Là, vous avez choisi Rue des boutiques obscures.
Oui, parce que c'est un roman dans lequel un détective... J'aime beaucoup les personnages de détective un peu ratés, ce qui est le cas dans ce livre-là. Suit un homme en essayant de comprendre qui il est et peut-être c'est sa propre identité. Donc les réflexions toujours sur l'identité, le fantôme, comment on apprend quelque chose de soi en regardant l'autre qui s'échappe, c'est magnifique.
Et alors, vous avez également choisi Côme Martin Carl. Le livre s'appelle
La réaction.
Et donc, de quoi s'agit-il ?
C'est l'histoire d'un garçon qui est un peu perdu, qui, un peu par hasard, se retrouve dans un groupuscule d'extrême droite, ouais, catholique intégriste, qui s'appelle Le Renouveau Réactionnaire, avec une galerie de portraits hilarante.
J'adore le titre, La réaction. Je crois vraiment que, comme Martin Carl, c'est vraiment un des jeunes auteurs d'aujourd'hui très ambitieux et qui s'empare surtout des faits de son époque.
Moi, je dirais que comme Martin Carl est le nouveau Michel Houellebecq de gauche.
Waouh !
Une nuit en librairie.
Monica Sabolo, on va continuer de parler de votre petite famille émotionnelle. Et dans cette famille, il y a une très grande écrivaine qui vous aime. La preuve.
J'ai des souvenirs avec elle de salon notamment, mais au tout début vraiment, où elle et moi, on publiait nos premiers romans. Monica est quelqu'un qui a énormément d'humour et qui a cette élégance très particulière, en fait, de l'humour. Et donc, et par ailleurs, en fait, à l'époque où je l'ai rencontrée, donc il y a de ça plus de 10 ans maintenant, voilà, Monica avait des livres qui étaient plus, enfin, publiait des livres qui étaient plus légers, en tout cas en apparence, même si au fond, d'ailleurs, ses thèmes obsessionnels et récurrent était déjà là. C'est vraiment quelqu'un dont j'apprécie beaucoup de suivre le travail, l'évolution, et je trouve qu'elle a vraiment quelque chose qui s'intensifie, qui s'épaissit à mesure qu'elle écrit et que le temps passe, et une grande puissance métaphorique que j'admire beaucoup. C'est vraiment quelqu'un qui a une palette assez large au fond, parce que un livre par exemple comme Tout ça n'a rien à voir avec moi est un livre qui est très drôle, et j'ai l'impression que depuis quelques romans elle a quitté cette veine humoristique qui encore une fois cache beaucoup de choses, enfin qui n'est pas seulement humoristique, et je me demandais en fait si elle pensait y revenir peut-être un jour, avec toujours ces doubles tiroirs qu'il y a dans ses romans, parce que voilà, encore une fois, quand c'est drôle, c'est pas seulement drôle. Il y a toujours quelque chose qui sous-tend comme ça, la drôlerie ou la fantaisie.
Oh, je suis très touchée.
On a reconnu.
Delphine de Vigan. Et effectivement, je me souviens très très bien de nos premiers salons et de nos fous rires, parce que vraiment, c'est ce que je pourrais dire d'elle. C'est-à-dire cette profondeur, cette gravité, cette justesse incroyable de Rien ne s'oppose à la nuit, qui est un livre que je relis très très fréquemment. Parce que justement, elle a trouvé cet endroit où parler de sa mère, de son histoire familiale, avec une telle pudeur, délicatesse, élégance et en même temps certaines radicalités. Donc il y a cet endroit très grave où elle peut aller très loin. Et en même temps, cette légèreté, Delphine est quelqu'un d'hilarant. Enfin, cela me touche beaucoup. Et j'ai surtout ce souvenir, après mes deux premiers livres, je n'arrivais plus à écrire. C'était une époque où j'avais la sensation de ne pas du tout arriver à ce que j'espérais à travers la littérature. J'avais la sensation de ne pas être à la hauteur, je me mettais beaucoup de pression. J'ai décidé d'arrêter. Vraiment, je pensais que je n'écrirais plus. Et Delphine, je me souviens très bien, elle était extrêmement triste de cela. Elle me disait, mais tu ne peux pas arrêter. Elle me soutenait, elle était... C'était presque douloureux d'ailleurs, parce que moi j'essayais de me convaincre que cela n'avait pas d'importance. Et elle le prenait comme une sorte de catastrophe.
C'était une catastrophe. Et est-ce que dans votre prochain livre,
ah oui,
il y aura un tiroir drôle, hein?
Alors oui, oui, en effet, mais alors c'est vrai. Et d'ailleurs j'avais envie de renouer avec cet aspect-là. Parce que finalement, étrangement pour moi, d'écrire des choses drôles, c'est... Je pensais plus facile que l'inverse. J'avais la sensation de me cacher peut-être trop là derrière, et j'ai pu peut-être verser dans une sorte de tragique parfois. J'avais envie de renouer avec cela. Donc effectivement, dans le livre que j'écris, au début, je pense qu'il y a quelques scènes burlesques. Après, je me fais un peu rattraper, comme d'habitude, par
des assassinats.
Voilà.
Et alors, en matière de drôlerie, on va finir avec un écrivain qui vous définit comme une amie d'enfance et qui dit de vous cette phrase que j'adore. « Pour moi, Monica est une version de Modiano, sauf que je peux la toucher, c'est pratique. » Vous avez reconnu ?
C'est trop gentil. Oui, c'est Philippe Giannada. Voilà encore quelqu'un avec qui je peux parler de l'écriture sans fin. Donc, il y a un humour et une plume extraordinaires et une sensibilité folle. Finalement, on se voit très peu, pratiquement jamais. On s'écrit subitement, peut-être une ou deux fois par an, un échange de mails très long, et après plus rien. Mais j'ai vraiment la sensation qu'il est de ma famille. Sa présence me rassure. Rien que de le voir, j'ai l'impression qu'on va rire, qu'on va aller boire, je sais pas. La vie devient un peu aventureuse. C'est l'aventurier du rien, du quotidien, le grand aventurier du quotidien, Philippe Giannada, pour moi.
Pour clore cette émission qui, malheureusement, va se terminer, quelques questions en rafale, inspirées de vos titres, si inspirants, chère Monica. On est au mois d'août, c'est le moment de foncer chez Lamartine ou chez votre libraire préféré. Quelques conseils pour nos amis.
La valise d'été de Monica Sabolo.
Un livre à lire dans la jungle, le titre de votre deuxième roman.
Je dirais peut-être L'amant de Marguerite Duras, qui se passe donc durant son adolescence en Indochine, parce que je trouve que même s'il n'est pas réellement question de jungle, cette chaleur humide, cette ambiance d'eau et de végétation, je la ressentais physiquement en lisant ce livre.
Si vous partez à la montagne, un livre à lire à Grand Montana ?
Félicidad de Frédéric Berthet, qui est un recueil de nouvelles à l'intérieur de laquelle il y en a une qui, je crois, s'appelle Hors Piste et qui est hilarante. C'est un écrivain qui va à la montagne en pensant qu'il va écrire, que ça va l'aider. Il n'arrive pas à écrire le moindre mot. Et il part en promenade autour de l'hôtel. Il croit qu'il va mourir. Il se met à neiger alors qu'il est à 200 mètres de l'hôtel. C'est une petite merveille.
Il fait chaud, c'est l'été. Un livre à découvrir en summer.
Jour barbare de William Finnegan, qui est l'histoire d'un reporter de guerre américain qui trouve un sens à son existence et s'échappe du monde et se retrouve à la fois à travers le surf. C'est une histoire extraordinaire, même si on ne s'intéresse pas une seconde au surf. C'est une petite merveille.
Et je crois aux éditions du sous-sol. Et enfin, un livre qui, au contraire, on quitte le sous-sol, nous mènerait à l'Éden.
Alors, je suis en ce moment en train de lire Un pédigré de Patrick Modiano. Ce monde d'un Paris disparu avec des barons louches, des personnages étranges qui changent d'identité, tout ça avec des phrases extrêmement courtes mais qui dressent une galerie de portraits d'un monde fantomatique, pour moi, est vraiment une montée au paradis.
Une nuit en librairie.
Merci Monica Sabolo pour vos conseils, votre générosité, vos confidences, votre esprit. Cet été, chers auditeurs, lisez donc Éden, paru chez Gallimard. C'est mieux qu'une immense balade en forêt. Et offrez à vos enfants La Chouette Blanche, paru chez France Inter Michel Lafon. C'était Une nuit en librairie avec Monica Sabolo.
Une nuit en librairie. Toutes les nuits en librairie sont en podcast sur les plateformes de streaming.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.